Enquête.
Enquête.
Enquête sonore.
Enquête sonore.
Le collier de Macalvi. Enquête sonore.
Nous sommes à Montpellier, le 1er octobre 1888. C'est l'inauguration de l'Opéra Comédie. Il y a tout Montpellier, du boulanger jusqu'au bougeoir. Ça fait 4 ans que les travaux sont en cours, après la période des incendies. Et voilà le nouveau bâtiment flamboyant, énorme, moderne, ouvre ses portes. Et dans la foule, Madame Emma Calvé.
Emma Calvé est une cantatrice d'opéra très populaire à l'époque. Elle a une voix en or magnifique. Ce soir-là, elle a été invitée par Monsieur Ford au spectacle, l'opéra Canet. On sait que parmi les invités, il y avait la sœur de Madame, Rose Calvé.
On sait aussi que le spectacle a été interrompu par l'annonce d'un colis suspect abandonné au rez-de-chaussée. Le public a été évacué et Madame Emma a perdu son collier.
Montpellier, 16 mars 1928. Mes chers petits-enfants, je profite de ce petit temps où je suis au lit, un peu malade, pour vous écrire. J'y pense depuis un petit moment déjà, mais en me disant que j'avais bien le temps de vous parler. J'ai perdu quelque chose. Quelque chose qui me tenait vraiment à cœur. Je l'ai tant cherché, mais aucune trace de cet objet. Aujourd'hui, je vous confie cette tâche. C'est ma mère qui me l'a donné. Elle m'a demandé de ne jamais le perdre, ni le vendre. C'est un souvenir hérité de ma famille, de génération en génération. Et c'est ma mère qui me l'a donné. C'est un collier. Un collier constitué d'or et de diamants. Il a une forme de croissant de lune. Ce collier a un pouvoir. Il permet de changer la voix et d'attirer toutes les oreilles avec un son mélodieux et envoûtant. Tiens, comme les sirènes d'Ulysse. Je m'en suis servi longtemps. Je vous fais confiance. Retrouvez-le et chérissez ce collier en pensant à moi. Gardez-le comme un trésor. De là où je suis, je vous regarderai, je vous protégerai. Emma Calvé, qui vous aime.
Nous sommes en 2022. Une enquête a été sollicitée par la famille suite à la trouvaille de cette lettre.
Une agence de détectives a été engagée pour résoudre cette affaire. Les DMM, détectives médiocres de Montpellier, qui se sont mis directement au travail. DMM, détectives médiocres de Montpellier, toujours disponible.
24h24.
DMM.
Détectives
médiocres
de
Montpellier.
C'est nous.
Ok. Le collier a été trouvé par une personne et elle est partie avec. Elle souhaitait chanter comme elle. Piste 1.
Il est peut-être dans la tombe de Madame Calvé ou enterré sur la scène
ou bien dans les loges.
En tout cas, depuis 1888, personne n'a chanté aussi bien qu'elle. Allons commencer l'enquête.
Bonjour, est-ce que vous pouvez vous présenter? Que faites-vous ici dans l'Opéra Comédie?
Anne Pagès-Boissé. Et mon métier au sein de l'Opéra, c'est pianiste, chef de chant. Mon travail se fait avant les représentations. toutes les répétitions d'un opéra se font au piano pendant à peu près 3 semaines. Et moi, je joue une partition de l'opéra qui est réduite pour piano. Et mon travail, c'est de remplacer l'orchestre pendant les répétitions et de travailler aussi avec les chanteurs et aussi travailler avec le chef d'orchestre, beaucoup, et le metteur en scène. Voilà, c'est tout le monde ensemble, en fait. Et jusqu'à la première représentation, à laquelle j'assiste, évidemment, et là, je fais rien. Je me régale.
Quelle est la différence avec un chef de chœur ?
Beaucoup de gens confondent les deux. Le chef de chœur d'opéra, il n'est pas au piano, il dirige. Comme un chef d'orchestre, mais sauf que c'est le chœur, donc les chanteurs. Et le chef de chant ne dirige pas. C'est un pianiste, le chef de chant. Par contre, ce qui est le point commun entre les deux métiers, c'est de bien connaître les chanteurs. Comment fonctionne un chanteur, ce qu'il peut faire, ne pas faire, etc.
Comment vous êtes-vous passionnée par le piano ?
Ma mère est chanteuse. Et donc, toute petite, j'ai entendu chanter à la maison. Et elle est pianiste aussi. Et du coup, moi, j'avais cette chance d'avoir déjà un piano à la maison. Ça, ça aide beaucoup. Et en plus, le fait que ma maman soit chanteuse m'a aussi, évidemment, orientée vers les chanteurs, l'opéra, très tôt, quoi. Et j'ai surtout eu envie de faire du piano. Pour moi, c'était accompagner ma mère au piano. Et ce qui est arrivé après, elle avait son pianiste et puis au bout de quelques années, c'est moi qui suis devenue sa pianiste. Donc ça a été moteur pour moi, ça. Les souvenirs les plus forts, c'est les concerts où on faisait de la mélodie ensemble. Parce qu'il y a vraiment un lien très... Il faut bien se connaître quand on fait de la mélodie. Et donc là, on se connaissait par cœur. Donc pour moi, c'était toujours un plaisir. Voilà.
Quel est votre courage qui vous tient debout devant tout ce monde ?
Alors, c'est très stressant, le trac, c'est ce qu'on appelle le trac. On se prépare, et puis on se dit, moi je vais jouer aussi bien que je sais que je peux le faire. Et le trac, c'est la peur de jouer moins bien que ce qu'on voudrait faire. Voilà. Et il y a des gens pour qui le trac est un frein, enfin, c'est trop insupportable, alors ils font pas ce métier, parce que c'est tout le temps c'est fatigant à la longue d'avoir le trac. Et d'autres pour qui c'est stimulant. Mais moi, je me fais une bulle avant d'entrer en scène pour justement gérer ça et pour me donner du courage, comme tu dis, pour aller en scène. C'est que je me crée une bulle où je me concentre beaucoup. Et quand j'arrive à rester dans cette bulle, il n'y a pas de problème. Je rentre en scène, je suis bien. Le trac est nécessaire. C'est ce qui stimule, c'est ce qui donne envie de bien faire et d'être... C'est humain d'avoir le trac.
De une, de trois grâces.
Plein de détails.
Antiquité, pierre sculptée.
Histoire ancienne.
Magique.
Maquette.
Anno 1888.
Le hall dans lequel on se trouve, aujourd'hui on l'appelle le hall des trois grâces. Alors ces trois grâces, ce sont des muses. Donc ce sont les inspiratrices des poètes, des artistes, des sculpteurs. Elles s'appellent Thalie, Euphrosyne et Aglaé.
Quand on arrive dans le hall des Trois Grâces,
elles ont un petit siècle de plus que l'opéra comédie.
Ça nous fait penser à l'Antiquité et à l'histoire
elles
ancienne.
Elles ont été rentrées à l'intérieur de l'opéra pour les protéger. À l'origine, elles se trouvaient sur la place de la Comédie. Et celle que vous pouvez voir sur la fontaine, c'est une copie. Si vous regardez bien, par exemple ici, il leur manque des doigts. Les draperies aussi ont commencé un petit peu à s'abîmer, elles sont un petit peu érodées. On va voir deux autres sculptures qui sont assez remarquables ici.
Il y a un endroit où on se met à 100 mètres l'un de l'autre et on peut s'entendre.
D'un côté, on va avoir Galatée avec le marteau et de l'autre côté, on va avoir Daphné avec la branche de laurier.
Quand tu parles face au mur, la voix est transférée à l'autre côté de la pièce, sans téléphone ou technologie de machine. Ça s'appelle le pont acoustique.
Un pont acoustique. Derrière les statues, face au mur, il faut se mettre à deux.
Cet espace Imagine.
Sans avoir besoin de parler vraiment très fort, vous avez juste besoin de parler comme si la personne se trouvait à côté de vous et vous avez vraiment l'impression que la personne vous répond en étant à côté de vous.
À l'entrée, il y a le plan de l'opéra et de toutes les pièces en maquette.
Vous avez donc une maquette qui va être divisée en deux parties. Ici, vous avez toute cette petite partie et là, ça c'est la fosse d'orchestre. Un petit peu en avant de la scène et elle est aussi un petit peu en dessous de la scène. Donc vous allez avoir vos musiciens qui vont être ici et le chef d'orchestre. Alors le chef d'orchestre, il va être sur une estrade parce que le chef d'orchestre, il va falloir qu'il puisse être vu par les chanteurs, il faut qu'il puisse voir les chanteurs et puis il faut qu'il puisse voir les musiciens. Donc il est un petit peu entre les deux, lui. D'ailleurs, il fait souvent relativement chaud là-dessous. Ils sont souvent un petit peu serrés.
T'as l'impression d'être au musée, il y a plein de détails.
Il y a Dionysos qui est peint au plafond et des noms inscrits. Juste à côté de la maquette, il y a la sculpture, les trois grâces.
Vous avez quelque chose sur les escaliers que vous avez là ? Parce que du coup, ce sont des escaliers en marbre, mais en dessous, ce qui soutient les escaliers sont des structures Eiffel. Donc c'est les mêmes structures que ce qui constitue la tour Eiffel.
Nous cherchons la piste de ce collier perdu, mais rien en vue. Bonjour, est-ce que vous pouvez vous présenter ? Qu'est-ce que vous faites ici à l'Opéra ?
Je m'appelle Emma, j'ai 22 ans. Je fais partie donc de l'Opéra Junior depuis que j'ai 6 ans. On m'a fait passer donc une petite audition pour voir si on est assez concentré pour pouvoir chanter, suivre des répétitions. Et finalement, ça m'a beaucoup plu tout de suite. On va dire que l'expérience Opéra Junior, ça m'a fait grandir en fait. C'est pour ça que ça fait très longtemps que j'y suis. À Opéra Junior, on fait donc des productions. Vu qu'on est quand même assez jeune et qu'il y a des risques qu'on tombe malade, qu'on ne soit pas là à un des spectacles, on est toujours deux par rôle. Donc on travaille tous les deux ensemble et chacun fait une représentation. Donc on a la chance de travailler avec l'orchestre de Montpellier. Parfois, on va travailler avec d'autres chefs d'orchestre que le directeur de l'Opéra Junior, qui est Jérôme Piedmont. Et on vit vraiment le spectacle à fond, les costumes, le maquillage, le stress, les répétitions intenses.
D'où vient ton inspiration, ta motivation pour chanter ?
Je pense qu'on m'a vraiment mise dedans quand j'étais toute petite. Une amie à ma maman connaissait Opéra Junior et elle m'a entendue chanter. Elle a dit à ma mère, il faut faire quelque chose, elle a besoin de canaliser son énergie quelque part. Donc quand on a 6 ans, on n'est pas vraiment motivé pour... en tout cas moi, à cette époque-là, je n'étais pas forcément motivée pour quoi que ce soit. Mais quand on te donne des responsabilités, quand on te donne un rôle, quand on te donne la chance de pouvoir montrer de quoi tu es capable, tu donnes tout ce que tu peux.
Comment tu sens-tu quand tu chantes ?
Je me sens très grande. C'est bizarre à expliquer. Je me sens comme remplie de quelque chose qui me grandit. En fait, parce que quand on chante de l'opéra, il faut vraiment penser à sa respiration. Et penser souvent, quand on est stressé, tout ça, la respiration, c'est quelque chose de super important. Et c'est vraiment un sentiment de bien-être vraiment profond.
Quel est ton courage à te tenir devant la foule qui te regarde à chanter ?
Avant de rentrer sur la scène, on est super stressé. On est vraiment, on fait les 100 pas, on se remaquille, on se recoiffe, on vérifie 36 fois si tout est à sa place. Et puis finalement, quand on rentre sur la scène, on est quelqu'un d'autre. C'est-à-dire qu'on joue, on joue un rôle. Du coup, dans notre vie, en fait, à l'école, finalement, c'est pas si différent que ça, mais pendant un oral, je suis moi. Et sur scène, je suis quelqu'un d'autre.
Le foyer de l'Opéra Comédie.
tableau.
Lustre.
Grande fenêtre.
Les escaliers.
La peinture.
Le ciel.
Belle femme.
Muse.
Étoile.
Un monde imaginaire.
Donc là, on se trouve dans le grand foyer.
Quand vous entrez dans le foyer de l'opéra, on peut imaginer que nous sommes dans un château.
Alors, foyer, à l'origine, ça vient de foyer de cheminée. Dans les théâtres et dans les opéras, on avait un foyer de cheminée parce que c'était des endroits qui étaient quand même assez mal chauffés. Et c'était un peu l'espace de convivialité.
Il y a des grandes fenêtres et des grands lustres et des grands tableaux. Chaque tableau a son histoire. La comédie, le théâtre, la musique, la danse.
Alors là, telles que vous les voyez, elles ont été restaurées l'année dernière parce que justement, elles avaient été salies entre les fumées, les graisses et autres. Donc aujourd'hui, elles sont quand même beaucoup plus lumineuses. Le parquet aussi a été restauré. Vous êtes sur un parquet qui a quand même 130 ans.
Quand tu lèves les yeux, tu vois un grand tableau au plafond, le ciel.
Et donc il reste la Voie lactée que vous voyez au plafond qui, elle, n'a pas encore été restaurée. Alors pourquoi ça s'appelle la Voie lactée? Parce que c'est la représentation qu'a voulu donner le peintre Ernest Michel avec toutes ces jeunes femmes qui ont une petite étoile au-dessus de la tête.
On voit des personnes un peu sans habit et je me demande pourquoi elles ne sont pas habillées. Quand on marche un peu, on voit des grands escaliers, comme l'histoire du prince et la princesse. Cet endroit me donne envie de vivre à les années 1888. Comme une princesse, elle porte des robes, des diadèmes, des belles coiffures. C'est un bel endroit, je l'aime bien. Je regarde les tableaux. Certains ont des colliers, mais pas de lune. Mystère, mystère.
Bonjour, je m'appelle Simon Rigaudot. Je suis chef d'orchestre assistant sur la production actuelle de Péléas et Mélisande à l'Opéra Comédie de Montpellier.
Pouvez-vous présenter votre métier?
Donc mon métier, c'est chef d'orchestre. C'est un petit peu bizarre, c'est un type qui fait de la musique sans instrument dans les mains. Et en même temps, il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui soit le point de repère, et c'est le chef d'orchestre. Les premiers chefs d'orchestre, en fait, ils avaient un gros bâton, et puis ils tapaient par terre. C'était pas très musical. Donc le bâton, il s'est réduit. Il est devenu une baguette, et d'ailleurs, je sais pas si vous en avez déjà vu une, ça c'est ma baguette. Ça fait 25 ans que je dirige des orchestres, ça fait 25 ans que je dirige avec cette baguette. Je l'ai perdue deux fois, c'était un drame. Et j'aurais pu chanter comme à l'opéra, j'ai perdu ma baguette. Quand il y a 80, 100, 150, moi je dirigeais jusqu'à 300 musiciens en même temps, le chef d'orchestre, c'est une espèce d'entraîneur de foot. Il a des joueurs en face de lui, il a une partition à exécuter. Alors, une partition sur celle de Péléas. Là, ça, c'est la partition de Péléas et Mélisande. Voilà, il y a les notes. Les notes, le rythme, les paroles. Le match, c'est de partir de la première note et d'arriver à la dernière en étant fidèle à la partition. Donc moi, je définis une tactique. La tactique, ça va être de jouer vite ou de jouer moins vite. Ça va être de jouer fort ou de jouer moins fort. Et donc, après, quand on arrive au spectacle, si j'ai bien défini la tactique et si j'ai entraîné mes joueurs justement, eh bien, ils vont réussir à gagner le match.
Pourquoi vous avez choisi d'être chef d'orchestre?
Je ne suis pas sûr d'avoir choisi. Il y a des fois des choses qui s'imposent. Je pense que j'ai eu beaucoup de chance. Mes parents n'étaient pas musiciens, mais quand je suis rentré à la maternelle, il y a une institutrice qui leur a dit « j'en peux plus, ils chantent tout le temps ». Il faut le mettre au conservatoire. Donc là, j'ai commencé un instrument qui s'appelle l'alto. Un instrument super parce que ça permet de jouer dans un orchestre. Et donc de sentir le côté collectif, comme dans le sport, de la musique. Parce que tout seul, on n'est personne. Mais jouer avec d'autres, c'est l'objectif ultime d'un musicien. Il se trouve qu'un jour, je suis arrivé dans un orchestre. Le chef de l'époque s'est présenté devant nous. Et là, j'ai eu comme dans les films, en fait, une espèce de flash. C'était un vieux monsieur. Moi, j'avais 15 ans, donc j'avais pas du tout... On n'était pas les mêmes, et de loin. Et je me suis dit, tiens, je vais être ça plus tard. Et donc, je suis allé le voir à la pause. Et je lui ai dit, écoutez, il va falloir m'aider parce que je veux devenir vous. Donc, il a rigolé. Mais il m'a dit, OK, je vais t'aider. Et tu vas voir, c'est très facile. Il y a une seule chose à faire. Il va falloir travailler beaucoup.
Dans votre carrière professionnelle, quel est le conseil que vous avez le plus marqué ?
Alors écoute, je crois que c'est le premier concert après toute cette période où on n'a pas eu le droit de jouer. Parce que c'est la première fois de ma vie, de ma carrière, que je n'étais pas autorisé à jouer pendant... Enfin, que je ne prenais pas la décision moi-même de ne pas jouer. Mais là, en fait, pendant un an, je n'ai pas pu faire de concert. J'ai beaucoup travaillé, j'ai fait d'autres choses, j'ai fait des vidéos sur YouTube, enfin, voilà, des choses comme ça, mais je n'ai pas pu diriger de concert. Et la première fois que j'ai pu le refaire... Oui, je crois que c'est ça le plus important. Et en plus, il se trouve que c'était le premier concert auquel ma fille assistait. Donc alors, tu vois, c'est un peu la double peine émotionnelle.
La salle. Ciel, table, cristal, 1888.
Galerie, velours.
Loge du roi et de la reine.
Projecteur, lumière. La scène,
micro,
piano.
Quand on rentre dans la salle des spectacles, on a l'impression d'être dans un monde imaginaire. Les décors sont impressionnants, magnifiques et très luxueux.
Les rouges et partout, sur les murs et les chaises, et de doré aussi.
Alors le ciel, c'est la grande
au
peinture
plafond,
que vous voyez là.
Il y a des gens peints.
Ils représentent la ville de Montpellier.
Des gens qui parlent.
Si vous regardez les personnages qui sont en bleu juste ici, ils interprètent une danse qu'on appelle la danse des trails, une danse de la région qui a pour vertu de fertiliser les sols. Donc quand on danse cette danse-là, c'est pour avoir de bonnes récoltes. Juste derrière eux, c'est le château d'eau.
Un pont,
on va voir
des perroquets.
Au niveau des jardins du Pérou. Ensuite, on va avoir de l'autre côté l'arc de triomphe. Et juste devant, on va avoir un homme en armure qui est à l'intérieur d'un cheval de bois.
Un soldat.
C'est une danse de la région, c'est une danse qu'on appelle la danse du chevalet. Et c'est un ciel qui a été fait par un peintre qui s'appelle Arnaud Durpec. Ce qu'on voit très bien, c'est le lustre.
Il y a beaucoup de lumière. Un grand lustre.
Alors ce lustre,
des perles de cristal.
Il fait 1800 kilos.
C'est du cristal de Baccarat.
Tous les petits éléments qui brillent.
Qui pèsent au moins une tonne.
Très fragile. On a 120 ampoules.
Des masques, tous différents.
Structure métallique. On va retrouver des masques. Les comédiens portaient ça dans l'Antiquité en Grèce pour exprimer la joie, la tristesse, la colère dans le théâtre antique.
Il y a aussi des noms inscrits sur toute la galerie.
Vous avez vu, on a pas mal de noms.
Rameau, Mozart,
ici.
Aubert, Beethoven.
Il y en a peut-être qui vous disent quelque chose.
Adam,
peut-être Mozart,
Berlioz, Meyerbeer.
Alors tous ce sont tous des compositeurs qui ont écrit au moins un opéra puisque dans le cas de Beethoven, il n'en a écrit qu'un seul. Il n'était pas très opéra, Beethoven. Il a écrit plein d'autres belles choses, mais l'opéra, c'était pas ce qu'il préfère. Derrière, on a donc la scène.
Et sur la scène,
vous avez donc tout un décor. Alors, bien évidemment, la scène n'a pas toujours cette allure-là.
Il y a un décor qui est magnifique et qui donne une image de la jungle.
On a un opéra avec une partition, avec un livret. En fait, le livret, c'est un petit peu comme le scénario. Vous avez une histoire, vous avez une trame. Et après, c'est le metteur en scène qui va... interpréter, qui va choisir sa propre vision des choses.
L'espace dans la salle est magnifique. Je regarde toutes les lunes, mais pas de collier. Aïe, aïe, aïe.
Enquête.
Enquête.
Sonore.
Enquête sonore.
Le collier de Macalvi. Enquête sonore.
Après avoir attendu les témoins et fait notre analyse, on aurait appris que lors de l'incident, le collier a été arraché par un membre du staff engagé par la sœur de Madame Calvé. Il l'aurait caché au sous-sol de l'opéra.
La personne du staff ne pouvant plus tenir la pression d'un si grand secret, s'est livré au commissariat le plus proche pour avouer ce qu'il avait fait. Le traumatisme était insupportable. Après la mort d'Emma, son esprit venait le tourmenter.
Trouvez le collier!
Trouvez le collier!
Les équipes de police ont accompagné Monsieur X sur le lit, mais là, pas de collier. Puis un indice. Il semble que quelqu'un ait trouvé entre-temps le collier.
C'est la sœur de Emma Calvé, Madame Rose, qui avait pris le collier. Elle a essayé de chanter et c'était pas top.
Le collier n'avait pas d'effet. Elle a essayé de s'entraîner. Ça n'agissait pas sur elle. Elle s'est dit que ça ne servait à rien de garder ce collier. Au fur et à mesure du temps, elle décida d'abandonner le collier et de le passer au cou d'une des trois grâces. La piste nous était passée sous le nez. Encore une affaire résolue, Banon.
DMM,
détective médior de Montpellier, toujours disponible.
24h24.
DMM.
Détective
médiocre
de
Montpellier.
C'est nous. Cette enquête a été réalisée par mon équipe et moi, Zoumana,
Wakiri,
Sarah,
Abdullah,
Rojdi,
Noman
et Damien. Merci à l'Opéra Comédie
et aux interviews.
Merci de nous avoir accueillis au sein de l'Opéra Comédie et merci à tous les gens qu'on a interviewés et à plus, à bientôt.
Ciao, ciao.
Bye.
Ok, chalte.
Bislam alaikum.
Warasukunini.
Aniche.
Goodbye.
Après avoir trouvé le collier 2 ans après, la famille Calvé a décidé de remettre le collier à Nathalie Calvé, qui est la fille biologique d'Emma Calvé. Et du coup, c'est elle qui a repris le poste de sa mère. Et je crois qu'elle a une belle voix que sa mère.
Si tu te tais quand on te demande rien, qu'est-ce que tu diras quand on demandera de te taire?
Si on a quelque chose à dire, je le sais.